Torahbox.com pour la diffusion du judaïsme aux francophones vous retransmet un cours de Talmud. Etesh Kalim, page 21, Daf Kafalef. Bonne écoute et bon limoud.
Amaradi, Rabbi Abarbar, nous passons Daf Alef Amunalef. Veloyahoutoumaché, en fait, c'est une très bonne question, cette contradiction dans la vie de Rabbi Shimon. Alors, l'Agma répond Atar Rabbi Yaakov Bar Acha. Et a dit au nom de Rabbi Abba Bisham Rabbi Yochanan, Dvar Torah ou Shetehe Ba Minatibur. En fait, c'est vrai que Minatorah, c'était la mincha quotidienne du Kohen Gadol, devait être offerte par la caisse publique. Kivan de Chazé de Kamidar Kalishka, dans le deuxième état Mikdash, quand les Chachamim ont vu que les Kohen Gadol se succédaient rapidement parce qu'ils ne tenaient pas longtemps, et donc le fait d'offrir cette mincha quotidienne du Kohen Gadol imposait une lourde charge à la caisse publique. C'est pourquoi les Chachamim ont institué que ce sera les héritiers qui devront offrir cette mincha. Qui va déchazer des pachoubé, quand les Chachamim ont vu qu'ils négligeaient d'offrir cette mincha, les Chachamim en sont revenus à la vie de la Torah et ont institué que c'était cette mincha serait offerte par la caisse publique. Rabbi Yossi Amar Rabbi Yochanan a posé une question au sujet de la mincha quotidienne du Kohen Gadol qu'on devait offrir pendant la période intermédiaire qui précède la nomination du prochain Kohen Gadol, nous avons vu que c'était le Yisaron entier qu'il fallait offrir. Alors, Mahu Ken le dit, Shlema Beshacharit ou Shlema Ben Arbaim, est-ce qu'on devrait offrir un Yisaron entier le matin et un Yisaron entier l'après-midi, ou Shlema Beshacharit ou Bitela Ben Arbaim, ou bien est-ce qu'on offrira un Yisaron entier le matin et l'après-midi on annulera, elle ne sera pas offerte. Et si tu veux me dire qu'on peut résoudre ce problème, d'Irtiv Minchat Tamid, parce que le pasuk qui nous parle au sujet de cette mincha nous dit que ce sera une mincha régulière, et donc pour conserver cette régularité, il faudra l'offrir le matin à l'après-midi. Donc, on voudrait trancher que on devra amener un Yisaron le matin et un Yisaron l'après-midi. Alors, se pose la question au sujet de Shloshet Lugin Mahem. Nous savons que cette mincha était accompagnée en général de trois lougs d'huile. Alors, se pose la question au sujet de ces trois lougs. Shloshet Lugim Shacharit ou Shloshet Lugim Ben Arbaim. Est-ce qu'on devra offrir trois lougs d'huile le matin et trois lougs d'huile l'après-midi, donc doubler la quantité d'huile? Ou Lugu Mersa Shacharit ou Lugu Mersa Ben Arbaim. Donc, il suffira d'amener trois lougs d'huile. Et on le partagera, on mettra donc un loug et demi pour le matin et un loug et demi pour l'après-midi. Amar a dit Rabbi Chizkia, ouf hadat Israël, j'ai en fait aussi une autre question. Shnei kumtsim mahem. Cette mincha du Kohen Gadol était accompagnée aussi de levona, et on a vu dans la Maseret Menachot, une machloquette entre Chachamim et Abba Yosef Dosai quant à la quantité qu'il fallait amener. Selon Chachamim, on devait accompagner cette mincha d'une poignée de levona. Elle était partagée donc une demi-poignée le matin et une demi-poignée l'après-midi. Selon Abba Yosef Ben Dosai, c'était une poignée qu'il fallait offrir le matin et une poignée l'après-midi. La Gemara dans Menachot dit là-bas que l'alakha est comme Abba Yosef Ben Dosai. Alors la question se pose, dans le cas où il faut doubler la mincha quotidienne du Kohen Gadol, qu'est-ce qu'on fera avec les deux poignées de levona qui accompagnaient cette mincha habituellement? Est-ce que on doublera aussi la quantité, et on dira donc que Shnei Komtsim Beshacharit ou Shnei Komtsim Ben Arbaim, on offrira donc deux poignées de levona le matin et deux poignées de levona l'après-midi, ou Komet Echad Beshacharit ou Komet Echad Ben Arbaim, ou bien peut-être qu'on amènera deux poignées de levona comme on l'avait d'habitude, et on partagera entre le matin et l'après-midi, on mettra donc une poignée de levona le matin et une poignée de levona l'après-midi. Amar Rabbi Yossi dit à Chizkia, comment ça se fait que tu t'es posé la question au sujet de la quantité de levona? Klum lamdul le komets, il faudra lire ici lo mi lechem apanim. N'est-ce pas que du fait qu'on a vu au sujet de lechem apanim, qui pour chaque arrangement de pain devait être accompagné d'une poignée de levona, nous avons appris que l'offrande de levona minimum était d'une poignée, et de là-bas aussi, Avad Yosef Ben Dosai a appris que pour chacune des deux parties de la mincha quotidienne du Kohen Gadol devait être accompagnée d'une poignée de levona. Et c'est de là-bas qu'on apprend aussi que si on veut joindre plusieurs menachot d'Aïsaron ensemble pour les offrir sur le Mizbeach, il faudra joindre à chacune une poignée de levona. Alors, malahalan, shnei komtzim, de la même manière que si on veut mettre, quelqu'un veut offrir dans un seul ustensile, par exemple, deux isaron de farine, comme mincha, il devra joindre deux poignées de levona. Afkal shnei komtzim. Alors, dans l'autre cas aussi, où on offre ensemble les deux différentes parties de la mincha du Kohen Gadol, il faudra joindre à chacune de ces parties une poignée de levona. Donc, on voit donc clairement qu'il faudra doubler la dose de levona. Il faudra offrir deux poignées de levona le matin et deux poignées de levona l'après-midi. Donc, Rabbi Yossi ne comprend pas pourquoi Rabbi Chizkia s'est posé la question à ce sujet. La Gemara répond, Mataman tzichale, afacha tzichale. En fait, de la même manière que Rabbi Chizkia s'est posé la question au sujet de la mincha qu'on voulait doubler, alors là, au sujet de la mincha quotidienne du Kohen Gadol, aussi s'est posé la question. Parce qu'en fait, Rabbi Chizkia n'était même pas sûr que dans un cas où il offrait une plus grande mincha dans un même ustensile, qu'il fallait doubler la quantité de levona, puisque c'était offert en une fois, et donc on a toujours une poignée de levona offerte en une fois. Rabbi Chizkia a demandé à Rabbi aussi, comment ça se fait que tu t'es demandé est-ce qu'il fallait doubler la ration d'huile pour la mincha quotidienne du Kohen Gadol dans notre cas où il fallait doubler la ration. Klum, l'amdou shloshet logim, l'homme itamid, nous sauterons les trois prochains mots. N'est-ce pas que nous avons appris la quantité d'huile nécessaire pour la mincha du quotidienne du Kohen Gadol des libations qui devaient accompagner le Korban Tamid où la quantité d'huile était de trois logim. Alors, male alan shloshet logim, de la même manière que si on a une fois omis d'amener les libations qui devaient accompagner le Korban Tamid et on voulait les compléter une autre fois, on devait pour chaque libation manquée l'accompagner de trois lougim d'huile, afkan shloshet lougim. Alors là aussi, pour chaque fois qu'on devra offrir cette mincha quotidienne du Kohen Gadol, il faudra l'accompagner de trois lougim d'huile. Alors là aussi, on comprend bien que dans l'autre cas, on doit doubler la mincha quotidienne du Kohen Gadol. Il faudra doubler la quantité d'huile qui accompagne cette mincha. L'agma répond, ou mataman srichale, afkan srichale. En fait, de la même manière que Rabbi aussi s'est posé la question au sujet de la quantité d'huile pour les libations, il s'est aussi posé la question au sujet de la quantité d'huile nécessaire pour la mincha du quotidien du Kohen Gadol. Parce qu'en fait, Rabbi aussi n'était même pas sûr que si on avait une fois omis d'offrir les libations et donc on lui complétait une autre fois, qu'il fallait doubler la quantité d'huile. Parce qu'il est vrai que pour les libations, il fallait trois lougim d'huile, mais si on offre plusieurs libations ensemble, peut-être qu'aussi il suffira de joindre seulement trois lougim d'huile. Alors aussi pour la mincha quotidienne du Kohen Gadol, on peut se demander la même question, est-ce qu'il suffira pour cette mincha la quantité unique de trois lougim d'huile. Sheloyé, la Gemara reprend le passage de la Mishnah qui nous dit que les chachamim ont institué qu'on ne transgresse pas les jours de Meïla si on profite de la cendre de la paradoma. Rabbi Shimon bar Nachman b'shem Rabbi Yonatan dit Bedim haya sheim aluba, vem gazru sheloyim aluba. Théoriquement, min la Torah, on aurait dû transgresser les jours de Meïla si on profite de cette cendre, mais les chachamim ont décrété qu'on ne transgressait pas les jours de Meïla si on profite de la cendre. La Gemara demande Vatan, et voici qu'on va une braïta à Khatat. Le fait que la Torah employait le terme de khatat en parlant de la paradouma, mais la mèche moalimba, ça nous enseigne que si on transgressera les jours de Meïla, si on en profite. La bretta continue, bah moalim, ben moalim befra. Si on transgressera les jours de Meïla si on tire profit de la vache elle-même, mais on ne transgressera pas les jours de Meïla si on tire profit de sa cendre. Donc on ne voit pas pourquoi on a besoin du décret de Chachamim pour dire qu'on ne transgressera pas des sourds de Meïla si on tire profit de la cendre. L'Agma répond, Amar Adi Rabbi Avahu, Barishona Hayu Mishtak Shekimba, Venotnim Otal Gabriel Makotem. Au début, les Kohanim s'en servaient pour saupoudrer leur plaie, parce que nous savons que la cendre arrête les hémorragies. Le Gazrou Shimaluba et le Chachamim ont décrété qu'on transgressera les sourds de Mila si on en profite. Kival Shnik Dourou, une fois que les Khachami ont vu que les Kohanim ont fait attention, ont arrêté cette pratique, Gazrou Shloim Aluba, ils ont décrété à nouveau qu'on ne transgressera pas les sourds de Mila si on tire profit de la cendre, comme c'était à l'origine le digne de la Torah. Vers la Kimi. La Gemara reprend le passage de la Mishnah qui nous dit que, qui nous rapporte une machloquette entre Tanakama et Rabbi aussi, à savoir qui c'est qui remplacera les oiseaux qui devaient être offerts comme corban sur le Mizbéach et qui sont devenus pasouls. Selon le Tanakama, les Chachamim ont décrété que c'était la caisse publique qui remplaçait ces oiseaux, et selon Rabbi aussi, c'était le fournisseur des oiseaux qui remplaçait les oiseaux devenus pasouls. La Gemara nous rapporte ici un passage qui a déjà été cité plus haut au début du Pérec. Il s'agissait d'un cas où on a trouvé de l'argent entre le tronc destiné au couple d'oiseaux dont nous savons qu'un des deux était offert comme korban chatat et le tronc des oisillons destinés à être offerts comme korban olah. Alors la Mishnah nous dit que cette pièce, cet argent, était versé dans le tronc qui est destiné aux oisillons de Korban Olah. La Gemara se pose la question, puisqu'il y a autant de chances que cet argent provienne d'un tronc ou de l'autre, Haïcha Azot, le Maïmik Kaperet, cette femme qui a peut-être mis de l'argent dans le tronc destiné au couple d'oiseaux pour offrir le Korban qui suit la Touma de Zaba par exemple, avec quoi elle aura cette Kapara, puisque finalement on n'offrira pas son Korban. La Gemara répond, Amar Adi Rabbi Yitzhak, Mais Beddin Hu, c'est un décret du Beddin, Ha Misapek Et Akinim, Hu Misapek Et Apsulot Bet Avdot. Le fournisseur des couples d'oiseaux, c'est lui qui fournira les oiseaux pour remplacer ceux qui sont devenus pasoul ou celles qui se sont perdues. Là, Rabbi Yitzhak ajoute sur les mots de Rabbi aussi que même les oiseaux qui ont été perdus aussi seront fournis par le fournisseur d'oiseaux. Nous voyons donc que la Gemara pense comme Rabbi aussi. Nouvelle Mishnah. Nous savons que celui qui a la Touma de Zav rend amer tout celui qui rentre en contact avec lui. Non seulement ça, mais même son crachat aussi est amé et rend amer tout celui qui rentre en contact avec ce crachat. Alors, la Mishnah nous dit « Kol harukim hanim tzayim b'Yerushalayim teori » Tous les crachats qu'on trouvera dans la rue de Yerushalayim seront taor, on ne craindra pas qu'ils proviennent d'un Zav. « Chutz Michel Shuk Ha'Elyon » À part ceux du marché supérieur de Yerushalayim, la Gemara expliquera pourquoi. Ibrahim Rabbi Meir, ce sont les paroles de Rabbi Meir. Rabbi Yosef Omer dit, en fait, il y avait une séparation naturelle entre les gens qui étaient tamés et tahor, et suivant les périodes de l'année, les tmeim, ceux qui étaient tamés marchaient au milieu de la rue ou sur le côté de la rue. C'est pourquoi, Béchar Kolimotashana, tous les jours de l'année, où les gens n'ont pas spécialement de soucis d'être tahor, et donc même s'ils avaient la Touma de Zav, ils n'allaient pas toujours au mikvé. Alors c'est pourquoi la plupart des gens pouvaient être considérés comme tamé. Alors, Shebaim Tzatmeim, alors c'est les crachats qu'on trouve au milieu de la rue seront tamés, parce qu'en général les tmeim marchent au milieu de la rue. Sheba Zadim Teorim, par contre, les crachats qu'on trouve sur le côté de la rue seront tahor, parce que les personnes tahor qui sont une minorité, marchent sur le côté de la rue. Ou Bishata Regel, par contre, pendant la période des fêtes où la plupart des gens ont le souci de se purifier, alors Shebaim Tatourim, les crachats qu'on trouve au milieu de la rue seront tahor, parce que la majorité des gens sont tahor, donc ils marchent au milieu de la rue. Shebaz Dadim Tmeim, mais ceux qu'on trouve sur le côté de la rue seront tamim. Plecha Meoutim, Istalkim et Zadim, parce que c'est toujours la minorité qui se pousse de côté. Toujours par souci de garder la pureté, il y avait deux chemins qui venaient vers le mikvé, un qui était emprunté par ceux qui se rendent au mikvé, et le deuxième pour celui qui quitte le mikvé une fois qu'ils se sont purifiés dedans. C'est pourquoi, Kol Akelim, Alim Tsaim Bouchelem, au sujet de tous les ustensiles qu'on trouve à Yerushalayim, Derechevida le Betativilat Meim, ce qu'on trouve dans le chemin qui est emprunté par ceux qui se dirigent vers le mikvé, on considérera que ces ustensiles sont tamés, mais Derechaliat Teorim, et les ustensiles qu'on trouve dans le chemin qu'empruntent ceux qui quittent le mikvé, on considérera que ces ustensiles sont tahor. Shelo kire datam aliatam, bien que nous savons que tous les ustensiles qui se promènent autour du mikvé ont une fois été tannés, mais il y a quand même une différence entre ceux qu'on trouve sur le chemin de ceux qui qu'empruntent ceux qui quittent le mikvé et entre ceux qu'on trouve dans le chemin qu'empruntent ceux qui se rendent au mikvé, parce que ceux qu'on trouve dans le chemin qui mène vers le mikvé, nous savons donc, nous pouvons estimer qu'ils étaient tamés et qu'on n'a pas trempé, alors que ceux qu'on trouve dans le chemin qu'empruntent ceux qui quittent le mikvé, on pourra facilement estimer qu'on les a trempés dans le mikvé pour les purifier. Divrei Rabbi Meir, ce sont les paroles de Rabbi Meir. Rabbi Yossi Omer dit, Kulam Teorim, tous les ustensiles qu'on trouve dans Yerushalayim sont Tahor, Chutz Min Hasal, Vamagrefa, Vameritza, Hamiyuchadim Likvaot. À part l'espèce de panier qui servait à y mettre les ossements qu'on voulait transporter d'un endroit à l'autre, et à part le râteau qui servait à rassembler les ossements qu'on voulait transporter d'un endroit à l'autre, et à part l'espèce de pieu qui servait de levier pour déloger les pierres qu'on rencontrait quand on voulait creuser les tombes. Donc puisque tous ces ustensiles étaient destinés à être utilisés pour les morts, on pouvait toujours estimer qu'ils étaient tamés. D'abord qu'en général, le korban Pessah était accompagné d'un korban Chagiga. Par contre, si le clan Israël était tamé et était tenu d'offrir le korban Pessah, même si tout le monde était tamé, il n'était quand même pas accompagné de ce korban Chagiga parce que ce korban est facultatif. C'est pourquoi, en général, les Israël, quand ils se préparaient à offrir le korban Pessah, ils préparaient tous les ustensiles nécessaires, soit pour le korban, soit pour le korban Chagiga. Par contre, s'ils avaient un doute, par exemple, dans le cas où le roi d'Israël était mourant, et s'il venait à mourir avant Pessah, tout le monde se serait rendu tamé en participant à son enterrement. C'est pourquoi ils se préparaient, dans un cas comme ça, juste pour offrir le korban Pessah. Ils purifiaient donc les ustensiles qui étaient nécessaires au korban Pessah, et ceux qui devaient servir pour le korban Chagiga n'étaient pas purifiés. C'est pourquoi Sakim, Shinimtset Biyud Dalet, Shochet Bamiyat. Si on trouve le 14 Nissan, donc qui est Erev Pessah, un couteau qui sert à la Shrita, il pourra l'utiliser tout de suite pour faire la Shrita, parce qu'on peut être sûr qu'on l'a purifié. Bishlosha Asar, Shoneh Omadbi. Par contre, si on trouve ce couteau le 13 Nissan, puisque on a encore deux jours avant Pessah, alors là, on ne pourra pas être sûr que ce couteau a été purifié, il devra à nouveau le purifier dans le mikvé. Kofit, par contre, s'il trouve une espèce de hache qui servait essentiellement à briser les os, nous savons qu'on ne brise pas les os dans le korban Pessah, mais juste pour le korban Chagiga, c'est pourquoi, bezé ou bezé, shonom matbil, dans les deux cas, c'est-à-dire soit s'il le trouve le 13, soit s'il le trouve le 14 Nissan, s'il veut l'utiliser pour faire la shrita, par exemple en l'utilisant bien, il devra à nouveau lui faire la shrita. Et cela même, selon l'avis de Rabbi Yossi qui dit que tous les ustensiles qu'on trouve sont tahor, mais tout ce qui a trait au korbanot, au hekdesh, on est beaucoup plus pointilleux, et même si on peut présumer que tous ces ustensiles soient tahor, on les retrempera quand même dans le mikvé pour sortir du doute. Chal arba asar liot b'shabbat. Par contre, si le 14 Nissan tombe à Shabbat, alors là nous savons que le jour de Shabbat, ou de Yom Tov d'ailleurs, on ne peut pas tremper les ustensiles dans le mikvé pour les purifier. Alors là, on estimera qu'on a purifié ces ustensiles donc avant Shabbat, et s'il trouve soit un couteau, soit une hachette, il pourra tout de suite l'employer pour faire la shrita.
Vous êtes en plein cours de Guémara avec Torah Box. Et n'oubliez pas, chaque mot d'étude équivaut à accomplir les 613 mitzvot.
Nous tournons la page à Tafrafa le Famoudbet. Bet Edvar, Shochet Bamiyad. Là aussi, s'il trouve soit un couteau, soit une hachette, le 15 Nissan, qui est un jour du Yom Tov, il pourra aussi l'utiliser tout de suite pour faire la shrita. Il n'aura pas besoin de craindre qu'elle soit tamée. Nimtsa Kshura le Sakim, Harei Kesakim. Si on trouve un couteau attaché à un autre couteau dont on connaît la nature, tahor ou tamé, on dira que les deux auront le même. L'Agmara nous explique le début de la Mishnah qui nous dit, selon l'avis de Rabbi Meir, que le crachat trouvé dans le marché supérieur était tamé. Nous allons voir la raison. Rabbi Avin Beshev Rabbi Shamel Levi dit, Katran Shalokhimaya, il y avait dans le marché supérieur des goyim qui possédaient une laverie, c'est-à-dire qu'il avait les habits des autres. Et comme nous savons que les Chachamim ont décrété que les goyim auront la Touma de Zav, c'est pourquoi tous les crachats trouvés dans le marché supérieur seront tamés. Amar Adi Rabbi Hanina, Arudot Hayu Lacharim Bebushalayim, le travail des goyim qui était dans le marché supérieur était en fait d'abattre des espèces d'âmes sauvages pour les lions du roi. Et ceux qui montaient à Yerushalayim pour les fêtes s'enfonçaient jusqu'aux genoux dans le sang de ces âmes sauvages. Et quand ils sont venus demander la question aux Chachamim quant à la Touma causée par ce sang, ils ne leur ont rien dit. Nous sautons la parenthèse. Puisque nous venons de nous parler du sang d'un cadavre animal qui coulait dans le marché supérieur de Yerushalayim, la Gemara nous rapporte une histoire à ce sujet. En fait, ça a déjà été raconté plus haut dans Daftet. Rabbi Simon Beshem Rabbi Shlua Ben Levi raconte, Maaseh Beperda Michel Ben Rabbi Shemeta. Il y a une fois une mule de la maison de Rabbi Yehuda HaNassi qui est mort, Betaru et Damea Mishum Nevena. Les Chachamim ont dit que son sang est tahor, il n'a pas la Touma qu'en général le cadavre d'un animal. Rabbi Lezer Shaïl et Rabbi Simon, Rabbi Lezer a demandé à Rabbi Simon, Atkama, jusqu'à quelle quantité ce sang sera tahor, je l'ai agivé et Rabbi Simon ne lui a pas répondu. Shaïl, le Rabbi Yehuda Ben Levi, alors Rabbi Lezer a demandé à Rabbi Yehuda Ben Levi, Amarle, il lui a répondu, Adrabi tahor yotam ikantame, jusqu'à la quantité d'un vi'it, le sang sera tahor, et plus qu'un vi'it, ce sang sera tamé, parce que un vi'it de sang qui coagule a la taille d'un kazaït. Ou Baash le Rabbi Lazar, de l'autre hasard le Rabbi Simon Shmuata. Et Rabbi Lazar était fâché parce que Rabbi Simon ne lui a pas dit la halakha correctement. Rabbi Bibi Havayativ Matne Adenouvda, Rabbi Bibi lui était assis et racontait la même histoire, mais il a apporté quelques modifications. Amarle, Rabbi Yitzhak Barbisna, en fait c'était Rabbi Yitzhak Barbisna qui a demandé à Rabbi Simon, Adkama, jusqu'à quelle quantité le sang de cette mule sera tahor. Amarle, Adrevit tahor, Yoter Mikantame, Rabbi Simon lui a répondu, jusqu'à un revit, le sang sera tahor, et plus que ça, ce sang sera tamé. Ou Baadbe, mais il l'a repoussé avec son pied, il a donné un coup de pied. Abal et Rabbi Zrika a dit à Rabbi Simon, Begin d'Arva Shailach Adbaidbe, c'est parce que Rabbi Tzrak Barbisna t'a posé une bonne question, que tu lui donnes un coup de pied. Abal lui a répondu, Begin de l'Ohabada Tibi, c'est parce qu'en fait, j'ai pas mon esprit clair pour pouvoir lui répondre, c'est pour ça que je l'ai repoussé d'un coup de pied. Dama Rabbi Hanin, ce que Rabbi Hanin a dit, il y a un passouk dans Kitavo qui nous parle des malédictions qui arriveront au Béni Israël s'ils n'accomplissent pas les mitzvot. Le passouk dit, Vahyuch, Chayecha Tlouim Lechamineged, et ta vie ne tiendra à tes yeux qu'à un fil. Alors, l'Agmara interprète ici, Zeshu Lokach Lochitin Meshana, ce passouk nous parle de quelqu'un qui achète chez le grossiste du blé de quoi suffire pour une année. En fait, la malédiction sera qu'il n'aura pas de champ pour pouvoir faire pousser sa nourriture. Il devra donc dépendre de la bonne volonté du grossiste. Il devra avoir l'argent au moment de la vente et qu'il y ait assez de blé au moment où il voudra acheter le blé pour l'année. Le passou continue. Ou pachata laïlam veomam, tu auras peur nuit et jour. Zé sheulokeach melasitki. Le passouk fait allusion à quelqu'un qui n'aura pas de quoi s'acheter du blé pour une année, il s'achètera de quoi suffire pour quelques mois. Velo tamid bechayecha, le passouk continue, tu ne croiras pas à ta vie. Ze shulokeach melapaltour, c'est quelqu'un qui n'a même pas de quoi acheter, de quoi lui suffire pour quelques mois, il achète au jour le jour chez le boulanger. Vana samich apaltira, et moi en fait je compte sur le boulanger, c'est-à-dire j'achète mon pain au jour le jour. Et c'est pourquoi je suis préoccupé par la parnassa et donc je n'ai pas l'esprit clair. Alors, Maïk Edoun, quelle est finalement l'halakha au sujet du sang d'un cadavre animal? La Gemara nous amène une preuve d'une Mishnah dans Eduyot qui nous dit Heid a témoigné Rabbi Yehoshua ben Petora, Aldam Nevelot Shu Tahor, que le sang d'un cadavre animal est tahor. Donc on voit que le sang est tahor. La Gemara répond Maou Tahor. Qu'est-ce que Rabbi Yehoshua ben Petora a voulu nous dire? Tahor milarchir. En fait, nous savons que pour recevoir la Touma, tous les aliments doivent au préalable avoir été mouillé par un des sept liquides cités dans la Mishnah dans Machshirim. Et donc là, là ce que Rabbi Shua ben Betura dit, que le sang d'un cadavre animal ne rendra pas apte à la nourriture à recevoir la Touma. Parce que le sang du cadavre n'est pas considéré comme un des liquides qui rendent apte à recevoir la Touma. Par contre, halitamot metame, mais par rapport à la Touma, c'est sûr qu'il rend tamé celui qui rentre en contact avec ce sang. Taman Tanina. On a enseigné une Mishnah dans Machshirim. Damasheretz metame kibsaro. Le sang d'un des huit reptiles cités dans la parasha de cheminée rend tamé celui qui rentre en contact avec lui, comme s'il avait touché la chair d'un de ces reptiles. La Mishnah continue, metame veno marchir. Il rend tamé celui qui rentre en contact avec lui, mais ne peut pas rendre apte un aliment à recevoir la Touma. Ven la nukayot sebo. Et on ne trouve nulle part ailleurs quelque chose de pareil. La Gemara comprend ici qu'on n'a nulle part ailleurs que le sang d'un cadavre animal soit tamé, donc rend tamé celui qui rentre en contact avec lui. La Gemara répond, ben alukayot sebo, keshi otomato. En fait, ce qu'on a, la chose à laquelle la Mishnah a voulu faire allusion quand elle a dit qu'on n'a pas trouvé quelque chose qui ressemble à toute la Torah, dans toute la Torah, il s'agit en fait de la quantité de chair ou de sang qu'il faut pour transmettre la Touma. Parce que nous savons que pour les huit reptiles, la quantité de Touma nécessaire, de chair nécessaire pour transmettre la Touma est de la taille d'une lentille. Pour tous les autres cadavres, la quantité est d'une olive. Aval, Damo, Metame, Kitsaro. Par contre, pour tous les cadavres, leur sang transmet la Touma comme leur chair. Amar a dit Rabbi aussi, Pligebat, Tren Amoraim, il y a une marloquette entre deux Amoraim. Chadamar Tame, Bechadamar Taor. Un dit que le sang d'un cadavre animal est tamé, et l'autre dit que le sang d'un cadavre animal est tamé. Mandamar Tame, qui Rabbi Yuda, celui qui dit que le sang du cadavre est tamé pense comme Rabbi Yuda. Mandamar Taor, celui qui a dit que le sang d'un cadavre est tahor, qui Rabbi Shua ben Petora pensait comme Rabbi Shua ben Petora. Amarle, Rav Abduma de Minachuta, Rav Abduma de la ville de Nachuta a dit à Rabbi aussi, Veyaout, et tu as bien fait de dire que celui qui dit que le sang du cadavre animal est tamé pensait comme Rabbi Yuda, de Rabbi Yuda Moriana de Be Messia Abba, parce que Rabbi Yuda c'était lui qui tranchait la halakhot dans la maison du prince de Rabbi Yuda Anassi. Kolarotu. La Gemara reprend le passage de la Mishnah qui nous dit que tous les crachats dans Yerushalayim étaient à or, sauf à part ceux qu'on trouvait dans le marché supérieur. L'auteur de cette Gemara ne connaissait pas la Gemara qu'on a vue plus haut. C'est pour ça qu'il demande Loken Amar Rabbi Abba ou Beshem Rabbi Yossi Ben Hanina. Ce n'est pas ainsi que Rabbi Abba au nom de Rabbi Yossi Ben Hanina a dit Logazwa la Rokin chez Yerushalayim. Les Chachamim n'ont pas décrété de Touma sur les crachats trouvés à Yerushalayim. Donc pourquoi ceux du marché supérieur sont tamés. La Gemara répond Haïtmar Ale, voici qu'il a été dit dessus au nom de Rabbi Avin Beshem Rabbi Yeshua Ben Levi, Katsam Shel Nochei Hasham, il y avait en fait un laveur goy qui habitait donc dans le marché supérieur. Et comme nous l'avons expliqué, les Chachamim ont décrété une Touma de Zav sur les goyim, ce qui fait que les crachats qui se trouvent dans le marché supérieur seront tamés. Tous les jours de l'année, les gens qui sont tamés marchent au milieu de la rue, et ceux qui sont tahor, ceux qui sont purs, marchent sur le côté de la rue. Et les gens qui sont purs marchent normalement sur le côté du chemin, et les gens impurs, qui, si par exemple dans un cas où ils voient quelqu'un de pur se rapprocher d'eux vers le milieu du chemin, alors ils leur disent éloignez-vous de nous pour ne pas vous rendre tamé. Béchat Arigel, par contre, pendant la période de fête, où les gens font beaucoup plus attention de rester purs pour pouvoir offrir le korbanot, Hatorim Alchim Shibolet, les gens qui sont purs marchent au milieu de la route, Batmeim Alchim Natsad, et les gens impurs marchent sur le côté, Batmeim Alchim Stam, les gens qui sont tamés marchent normalement sur le côté, Batorim Omrim Laim Proujou, et les gens purs qui voient, dans un cas où ils voient quelqu'un d'impur se rapprocher d'eux, ils leur disent éloignez-vous de nous pour ne pas que vous nous rendez tamés. La Gemara reprend le passage de la Mishnah qui nous dit que les ustensiles trouvés à Yerushalayim autour du Mikveh, il y a une marloquette à ce sujet entre Rabbi Meir et Rabbi Yossi. Selon Rabbi Meir, ceux qui étaient dans le chemin qui mène vers le mikvé étaient considérés comme ta mère, alors que Rabbi aussi pense que ce n'est que les kelim dont on était sûr qu'ils avaient la touma qu'on estimait qu'ils étaient ta mère. La Gemara demande, l'ochen amar Rabbi Abahu b'shem Rabbi Yochanan, ce n'est pas ainsi que Rabbi Abahu a dit au nom de Rabbi Yochanan, parce qu'il dit, lo gazro la kelim shi Bourushalem, les chachamim n'ont pas décrété de touma sur les ustensiles qu'on trouve à Yerushalayim. La Gemara répond, mikivan shi nimtzu derech yerida levet atrila, puisque en fait il s'agit ici d'ustensiles trouvés dans le chemin qui mène dans le mikvé,
Nasuchia
nous prouve que ces kelim sont tamés, et c'est pourquoi Rabbi Meir a entamé tous les kelim qu'on trouve dans le chemin qui mène vers le mikvé. Nous avons vu dans la Mishnah que la Meritza, qui était une espèce de pieu qui servait à déloger les pierres qu'on trouvait pendant qu'on creusait les tombes, était toujours considérée tamée. Abba Shaul, Hayakov Otam Tsipporim, appelait cette Meritza, la nommait Tsipporim. Alors la Gemara dit, Malda Amar Tsipporim, Shayadome le Tsipporim. Abba Shaul qui appelait cette Meritza Tsipporim, c'était parce que elle avait la forme d'un ongle, c'est-à-dire large et pointue. Mandamar Meritza, celui qui appelait cet ustensile Meritza, ce Meritza est à Even Levet Akvarot, parce qu'elle servait de levier pour bouger les pierres dans le cimetière. Kofit. La Gemara reprend le passage de la Mishnah qui nous dit que Nimtsa Kshura la Sakinare Kesakin, si on trouve, là la Mishnah ne précise pas, quelque chose d'attaché à un couteau dont on connaît la nature, Taor Tame, elle aura le même din que ce couteau. Tame la Breta nous dit, Hasakim kshurala harizu kemota. Alors ça précise qu'il s'agit d'un couteau, c'est-à-dire si on trouve un couteau attaché à un autre couteau dont on connaît la nature, harizu kemota, ils auront le même dit. Nouvelle Mishnah. Nous savons qu'il y a plusieurs sortes de touma. Il y a d'abord ce qu'on appelle la source de touma, comme par exemple les reptiles morts ou les cadavres d'animaux. Ceux-là transmettent leur touma aux hommes, aux ustensiles et aux aliments. La prochaine sorte de touma, c'est ce qu'on appelle la touma du premier degré ou du second degré. C'est les choses qui ont reçu la touma à partir de la source de ce qu'on appelait tout à l'heure la source de touma. Cette touma-là ne se transmet pas aux hommes et aux ustensiles, elle ne se transmet qu'aux aliments. Les Chachamim ont par contre décrété que les liquides qui ont cette touma légère, donc du premier ou du second degré, transmettront leur touma aux ustensiles et aux hommes. Alors la Mishnah nous dit, Paochet shmitmet beblad atuma. Si on a une paochet qui peut être considérée comme un ustensile, parce que quand on l'a décroché, on transportait des fois des ustensiles d'un endroit à l'autre. Alors un des différents paochet qu'il y avait dans le Beth Amikdash, qui s'est rendu tamé par une touma un liquide qui avait la touma d'un premier ou de second degré, matvile motabifnim. On la purifiera dans un mikvé à l'intérieur de la Hazara, ou machnissim otam yad, et on pourra tout de suite la faire rentrer dans le Betamigdash, dans le Echal, par exemple, parce que pour tout ce qui est Touma de Rabbanam, une fois qu'il a été purifié dans le mikvé, elle est tout de suite, on n'a pas besoin d'attendre la tombée de la nuit comme pour les autres Toumot. Par contre, Veshinit Met d'Ava Touma, si ce Parochet a reçu la Touma à partir d'une source de Touma, par exemple un reptile mort ou un cadavre d'un animal, il faudra la purifier dans le mikvé à l'extérieur de la Hazara, parce que nous savons qu'on n'a pas le droit de laisser quelque chose de tamé dans le Betamikdash. D'ailleurs, cette loi ne s'applique que pour les hommes et les ustensiles, comme c'est expliqué à la fin de Maseret Eruvim. Et après l'avoir purifié dans le mikvé, on l'étendra dans l'enceinte qui a diamètre de large qui entoure la Hazara, parce que même après l'avoir purifié dans le mikvé, elle n'est pas considérée tahor tant que le jour ne s'est pas fini. C'est pourquoi on ne peut pas la faire entrer dans la Hazara avant la tombée de la nuit. Imaïta Hadasha, si quand cette parochette est devenue tamée, elle était encore neuve, Shotrimotal Gad Aïtsteba, on l'étendra sur le toit de l'espèce de préau qui est dans le Harabaït, que déchirer à mettre l'artha chez Naa pour que les gens puissent voir comme ce parochet est beau. Rabbi Shimon ben Gamliel Omer dit Mishum Rabbi Shimon ben Asgan, parochet oviatefach, le parochet qui séparait le Kodesh du Kodesh HaKodashim avait une épaisseur d'un tefach. Al Shivim Shtaim Mimine Reget, Le métier à tisser qui servait à tisser ce parochet avait 72 cadres de lisse à travers lesquels les fils de chaîne passaient pour pouvoir permettre aux tisserands de tisser les différents dessins qui apparaissaient sur le parochet. Al kol nima venima kavda le troutine, chaque fil donc, qui passait dans les lisses avait été composé de 24 fils. Même Ama ve Rochba Kaf, la longueur de ce paochet était de 40 coudées et la largeur était de 20 coudées. Comme nous savons que la hauteur du Echal était de 40 coudées et la largeur était de 20 coudées. Ou Mishmonim Bishaim Ribo Aitanasit, et la fabrication de ce paochet coûtait 820 000 pièces d'or. Ou Shtaim Osim Bechol Shana, et on en faisait deux par an parce que nous savons qu'à l'époque du deuxième Beit HaMikdash, le Kodesh et le Kodesh HaKodashim étaient séparés par deux parochet espacés de une coudée. Ou Shloshmot Kohanim Adbilimota, et il fallait 300 Kohanim pour la tremper dans le mikvé. Nous savons qu'on trempait le parochet tout de suite après qu'on l'avait terminé, de peur qu'elle soit devenue impure. Alors, l'Agmara nous dit, quand la Torah nous parle du fil qu'on utilisait pour fabriquer ce parochet, la Torah nous dit que ce fil était composé de Techelet, Argaman, Tolat, Shani, Vechesh, Mozar. Donc c'était de la laine bleue, de la laine pourpre et de la laine rouge, et du lin, et tout cela, c'était Mozar. La Gemara va nous expliquer ce que veut dire ce terme. Alors la Gemara dit comme ça, Ilu Amar Chut, si la Torah avait employé le terme de Chut, fil, on aurait compris, Echad Kaful Shtaim, que c'était, on parlait ici d'un fil doublé. Si Shazur, si la Torah avait employé le terme de Shazur, qui veut dire tressé, on aurait compris que c'est un lishloshak, c'est un fil qui était triplé. Mojdav, puisque la Torah emploie le terme de mojdav, qui veut dire une double tresse, donc ça veut dire le shisha, c'était en fait une tresse composée de six fils. Arba mikan, puisque nous avons vu qu'il y avait quatre sortes de matériaux qui composaient ce fil, ha et simberba. Donc on voit que il y avait le fil qui servait à tisser le parochet était composé de 24 fils, comme nous savons, 6 fois 4, ça fait 24. Tanei El Vaitak nous dit 32. En fait, le fil qui composait, qui était utilisé pour tisser le parochet était composé de 32 fils. Ilu Amar Chut, parce que si la Torah avait employé le terme de Chut, Echad Kaful Shtaim, on aurait compris qu'on parle d'un fil doublé. Shazur, le Arba. Si la Torah avait employé le terme de Shazur, on aurait compris que c'était. C'est un fil qui était doublé 4 fois. Mojdar, puisque la Torah nous employait le terme de Mojdar, ça veut dire en fait une tresse, l'Ishmona, qui était composée de 8 fils tressés ensemble. Donc Arba Mikan, en plus de chacun de ces fils, était composé de 4 matériaux. Ha, Tlatim, Betrem, donc ça nous fait donc en tout 32 fils qui composaient le fil qu'on utilisait pour tisser le parochet. Tana Arbaim de Shmoné. Il y a une braïta qui nous dit que ce fil utilisé pour tisser le parochet était de 48 fils. Ilu Amar Chut, si la Torah m'emploie le terme de Chut, Echad Kaful Shnaim, on aurait compris qu'on parle d'un fil doublé. Klia le Shlosha. Si la Torah m'emploie le terme de Klia, qui veut dire une sorte de tresse, on aurait compris que c'était un fil triplé. Shazur le Shisha, puisque si la Torah m'emploie le terme de Shazur, qui est aussi une sorte de tresse, on aurait compris que c'est qu'on parle d'un fil composé de 6 fils. Mojdar, puisque la Torah emploie le terme de Mojdar, c'est donc une tresse doublée. On parle de la tresse de 6 fils. Alors, le Shnemasa, c'est pourquoi on comprend que c'est un fil qui est composé de 12 fils. Arba Mikan, puisque chacun de ces fils devait être composé de 4 sortes, 4 matériaux différents. Ha Arba Ibetmania, c'est pour ça qu'on comprend que le fil utilisé pour tisser le parochet était composé de 48 fils. Katou Bechadomer, Maserokem, le pasouk qui nous parle du parochet qui était devant le Mishkan, le pasouk nous dit qu'il était fait par un brodeur. De Katou Bechadomer, Maserokem, et le pasouk qui nous parle du parochet qui séparait le Kodesh et le Kodesh HaKodashim, nous dit Maserokem, c'est quelqu'un. La Torah nous dit donc c'était une œuvre d'art. Maserokem, que veut dire une œuvre de broderie? Partout Bechad, ça veut dire qu'il y avait un dessin qui apparaissait sur le parochet. Maser Hoshev, une œuvre d'art. Shne Parsufot, ça veut dire qu'il y avait deux dessins qui apparaissaient sur le parochet. La Gemara va expliquer tout de suite. Rabbi Yehuda de Rav Nechemia, une machloket entre Rabbi Yehuda et Rav Nechemia. Chad Amar, un des deux disait Maser Okem, quand on parle d'une broderie, Arimikan Varimikan. Donc apparaissait un lion de chaque côté. Donc c'est en fait le même dessin qui apparaissait des deux côtés. Maaseh Choshev, une œuvre d'art. Arimikan Vechalak Mikan. Que d'un côté apparaissait un lion et l'autre côté était lisse. Donc il n'y avait aucun dessin qui apparaissait. C'était ça l'art de manière à tisser d'un côté un dessin et de l'autre côté ce dessin n'apparaissait pas. Vechalana Amar, le deuxième disait Maaseh Rokem Arimikan Vechalak Mikan. Une œuvre de broderie, c'était donc, on voyait apparaître un lion d'un côté, l'autre côté était lisse, il n'y avait aucun dessin qui apparaissait. Maaseh Choshev, une œuvre d'art, Arimikan, Venesher Mikan, d'un côté apparaissait un lion, de l'autre côté apparaissait un aigle. Donc c'est ça ce que la Gemara a voulu dire par deux dessins, c'est un dessin de chaque côté. La Gemara reprend le passage de la Mishnah qui nous dit que le coût de la fabrication du Paroukhet était de 820 000 pièces d'or. Rabbi Yitzhak Bar Bizna b'shem Shmuel dit Guzma. En fait, la Mishnah nous a dit ici une sorte d'exagération. Taman Tanina, on a vu une Mishnah dans Maaseh Tamim. Il s'agissait là-bas de la cendre qui s'accumulait sur le Mizbeach avant que les Kohanim le portent à l'extérieur du Beit HaMikdash. Tamim aya alea que 300 cours. Des fois, il se trouvait sur le Mizbeach une quantité de 300 cours. Rabbi Yosef Rabbi Bon b'shem Shmuel dit Guzma, c'était une exagération parce qu'on ne laissait jamais tellement de cendres s'accumuler sur Mizbeach. Nous avons fini le shiur de Shkalim Kafalef. Nous commençons le shiur de Shkalim Kafalef. Nous commençons d'Afrafalef Amoudbet à la Mishnah en bas de la page. Basar Kotche Kotchim Shnitma, de la viande qui appartient à la Korban qui est devenue Tamé, Ben Be'ara Touma, Ben Be'vlara Touma. Soit si la Touma a été transmise par une source de Touma comme un reptile mort, soit si la Touma a été transmise par une Touma plus légère, de premier ou de deuxième degré. Ben Bifnim, Ben Bachout, soit si cette Touma est arrivée dans le Beit HaMikdash, soit si elle est arrivée à l'extérieur. Bet Shai Ma'ay Omrim disent, Hakol Isare Bifnim, il faudra tout brûler à l'intérieur pour accomplir la mitzvah de Bakodesh Ba'et Tisaref, donc tout ce qui appartient à Korban qui est devenu Pasoul, par exemple Tamé, il faudra le brûler donc à l'intérieur du Beit HaMikdash, dans la Hazara. Chout Michel Itma Ba'ara Touma Bachout, à part la viande dont la Touma a été transmise par une source de Touma à l'extérieur, dont cette Touma est arrivée à l'extérieur du Beit HaMikdash, alors celle-là, on ne la fera pas rentrer dans le Beit HaMikdash pour la brûler. Bien que nous savons que l'interdiction de la Torah de faire entrer quelque chose de Tamé dans le Beit HaMikdash ne s'applique pas aux aliments, comme c'est expliqué à la fin de Maaseh Eruvin, et les Chachamim ont quand même décrété de ne pas faire entrer même un aliment Tamé, si la Satouma a été à l'extérieur du Beit HaMikdash. Beit Hillel Omrim disent, Hakol Yisarev Bachutz, tout devra être brûlé à l'extérieur, Chutz Mishnitma Bebanat Hatouma Bifnim, à part dans le cas où la viande du Korban s'est rendue tamée par le contact d'une Touma légère. Beit Hillel pensait que les Chachamim étaient plus marmir dans leur décret, et tout ce qui avait eu une Touma grave, donc qui a eu un contact avec une source de Touma, ou tout ce qui a été rendu tamé à l'extérieur du Beit HaMikdash, ne pourra pas rester dans le Beit HaMikdash.
Nous espérons que ce cours a été apprécié. Retrouvez sur le site torah-box.com gratuitement un cours sur chaque page du Talmud, ainsi que le Daf Hayomi quotidiennement en vidéo.